Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Cette semaine, nous nous intéressons au christianisme en Asie, alors que le pape François vient d'effectuer une tournée sur le continent, en Thaïlande, au Japon, Asie, les autres mondes chrétiens, une série en partenariat avec le journal La Croix. Et ce matin, nous allons nous intéresser en particulier aux Philippines, un pays où le christianisme est extrêmement bien implanté, en particulier le catholicisme, puisque l'archipel est le troisième pays qui compte le plus de catholiques au monde, après le Brésil et le Mexique. Pourtant, l'influence de l'Église n'est peut-être plus aussi forte qu'auparavant. Philippines, un bastion chrétien en perte de vitesse, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'apôtre nous dit que parce que Dieu nous a choisis, nous avons été abondamment bénis. Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Ces paroles ont un écho particulier aux Philippines, parce que c'est le principal pays catholique en Asie. Cela est déjà un don de Dieu particulier, une bénédiction. Mais c'est aussi une vocation. Les Philippins sont appelés à être de vaillants missionnaires de la foi en Asie.
En janvier 2015, le pape célébrait une grande messe historique devant quelques 6 millions de personnes, un record. Il y avait appelé les prêtres locaux à sortir de leurs frontières pour préparer, je cite, les nouvelles voies de l'évangile en Asie. Cette fois, alors que le pape était en déplacement en Asie, François n'est pas passé par Manille. Pourtant, en Asie, les Philippines font figure d'exception, avec plus de 92% de chrétiens, dont 81% de catholiques, selon les chiffres du Pew Research Center de 2010. L'archipel est le seul pays asiatique où le christianisme a réussi à s'implanter aussi profondément. Alors pour expliquer cette spécificité, il faut remonter au XVIe siècle, au moment de la colonisation espagnole, qui en avait fait sa tête de pont dans sa campagne d'évangélisation de la région. Mais si à l'époque il s'agissait d'imposer un pouvoir extérieur aux populations locales, aujourd'hui, l'Église a d'abord un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'autorité centrale de Manille. En effet, dans la période contemporaine, l'Église a souvent incarné une force de résistance face à des pouvoirs particulièrement autoritaires, participant à la mobilisation des foules et parvenant même à faire tomber des présidents, le dictateur Ferdinand Marcos en place de 65 à 1986, mais aussi Joseph Estrada plus tard. Aujourd'hui, si la démocratie est de retour, elle est peut-être menacée par un président particulièrement autoritaire, Rodrigo Duterte, élu en 2016, qui a mis en place un populisme punitif, j'emprunte l'expression à notre invité du jour. Il y a un populisme punitif à travers une campagne particulièrement violente à l'égard des trafiquants et des consommateurs de drogue. Alors comment l'Église s'oppose-t-elle à l'autoritarisme de Duterte ? Comment s'illustre cette guerre entre l'Église et l'État ? Et au-delà de l'opposition à Duterte, quelle est la place de l'Église catholique dans le paysage politique, mais aussi au sein de la société ? L'Église est-elle en perte d'influence et quels seraient les moteurs de son déclin ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin David Camerou. Bonjour David Camerou. C'est à vous donc que je t'emprunte emprunter cette expression du populisme punitif. Vous êtes chercheur honoraire au CERI, le Centre d'études internationales de Sciences Po, et puis professeur invité à l'Université nationale du Vietnam de Hanoï, et vous avez participé à un ouvrage collectif récent sur la question du populisme, l'enjeu mondial populisme au pouvoir. Vous avez écrit l'article en particulier sur populisme, dans lequel vous parlez justement de ce populisme punitif. Je disais dans mon introduction, David Camerou, que ces Philippines sont le bastion catholique en Asie, et pourtant, le pape François n'y va pas. En 2015, il était venu sur place. Il avait fait une messe absolument gigantesque. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas là ?
Je crois que c'est par rapport aux autres pays qu'il visite. Par exemple, en Thaïlande, il y a des rumeurs qu'une espèce de catholicisme souhaite déplacer ou remplacer le bouddhisme. En fait, c'est complètement loufoque, mais et je crois qu'il ne voulait pas justement faire ce mélange avec les autres visites. En fait, c'est un choix politique.
Mais ce n'est pas par rapport aux déclarations assez hostile, voire carrément insultante de Duterte. On s'en souvient, durant sa campagne, il avait, Duterte, carrément traité le pape de fils de pute. Hein, je cite, c'était ses mots. D'ailleurs, comment comprendre, David Camerou, cette hostilité, voire carrément cette position, cette attitude insultante vis-à-vis du pape François?
Il y a une attitude personnelle de Duterte qui peut-être une des raisons pourquoi le pape ne revient pas, comme Obama n'a pas fait après aussi les insultes. Beaucoup de gens ont été traités de fils de pute par Duterte.
C'est un classique.
C'est un classique et c'est presque un langage presque quotidien. Mais l'attitude de Duterte personnelle, d'abord, il est de Mindanao. C'est l'île où il y a une forte minorité musulmane.
Mais il est catholique lui-même.
Il est catholique, oui, lui-même. Mais pendant son enfance, il y a eu des problèmes de pédophilie. Lui-même a été victime d'un pédophile américain, un prêtre américain qui est décédé depuis. Et donc, il a une animosité personnelle contre l'Église, mais aussi sa base électorale, en fait, a une attitude un peu ambiguë envers l'Église. C'est-à-dire qu'ils sont profondément catholiques, les gens modestes, extrêmement modestes, les pauvres, mais en même temps, ils considèrent que l'Église est une Église des riches. C'est une Église qui a toujours soutenu, en fait, le système socio-économique, social du pays, qui est quasiment féodal. C'est le seul pays qui n'a pas connu, par exemple, une vraie révolution agraire, où on a redistribué les terres parmi les plus pauvres.
C'est justifié, cette critique?
Oui et non. En fait, l'Église, dans un pays où l'État est faible, où les taux des prélèvements de l'État, en fait, c'est de moins de 20%. Donc l'État est incapable de fournir les biens publics, les biens sociaux. Donc c'est l'Église qui, historiquement, et c'est toujours le cas, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine d'une certaine sécurité sociale, c'est l'Église, par rapport aux pauvres, qui joue ce rôle. Donc c'est à la fois une ambiguïté envers on reste très profondément catholique, chrétien, mais on se méfie de cette Église qui est certes charitable dans son comportement, mais c'est la charité des riches un peu méprisant envers le petit peuple.
Mais si, par exemple, on se demande si l'Église a participé, disons, au système de corruption, je mets des guillemets, mais pour généraliser un peu, de façon un peu générique, est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Église, d'une certaine manière, fait partie du rouage de ce système de corruption en Philippines?
Non, je ne dirais pas dans le système de corruption. Je dirais dans le système, par exemple, des cronies, en fait, ceux qui sont proches du pouvoir, les sans-famille qui contrôlent les Philippines, les grands propriétaires terriens, ils ont peut-être pas forcément le soutien de l'Église, mais ils ont le silence de l'Église. Et cette idée, en fait, que si on est pauvre, c'est un peu son état que Dieu a voulu. Donc, si vous êtes pauvre, il faut en fait réjouir de cet état parce que c'est un peu un don de Dieu.
Alors, justement, parce que on comprend, vous le disiez, il a été victime de pédophilie, donc on comprend qu'il ait finalement cette attitude hostile vis-à-vis de l'institution catholique. Oui. Mais s'agit-il aussi de quelque chose de qui concernerait la foi chrétienne elle-même? L'année dernière, Duterte, il avait critiqué le contenu même de la Bible. Il s'était moqué de l'histoire d'Adam et Ève. Il avait pointé du doigt le concept du péché originel. Je le cite, alors que vous n'êtes même pas encore né, vous portez en vous le péché originel. Quel genre de religion est-ce là? On sent qu'il y a quelque chose qui le dérange dans le corpus biblique.
Oui ou non, c'est vrai qu'il a aussi posé les questions sur l'existence de Dieu. Ils ne font pas trop, mais je crois qu'aussi une des raisons pour l'animosité avec l'Église, c'est l'Église qui est la plus grande critique de sa guerre contre la drogue.
On va y revenir sur ce point-là, c'est évidemment
important. Et donc l'Église, étant donné la faiblesse de l'opposition et le fait que Duterte par les médias sociaux maintenant a un contrôle encore plus grand que ses prédécesseurs, l'Église revient un peu le ressort vraiment de véritable opposition.
On va évidemment évoquer ce qui est le cœur du différent aujourd'hui entre l'Église et Duterte, mais est-ce que les choses s'arrangent un petit peu depuis la campagne, depuis les sorties extrêmement hostiles, voire insultantes de Duterte? Le mois dernier, le gouvernement a autorisé l'enseignement de la Bible dans les écoles publiques. Est-ce qu'il faut le voir comme une mesure d'apaisement?
Je crois que les mesures d'apaisement, pas simplement avec les chrétiens, mais aussi avec les musulmans, Duterte a comme réussi, que personne d'autre a réussi, de signer un accord de paix avec les musulmans dans une partie du sud de Mindanao. Donc un accord qui donne une plus grande autonomie. Et l'Église a joué un peu son rôle dans cette négociation de accord de paix. Et je crois qu'aussi, il a fait un peu marche arrière sur la question de la peine de mort qu'il souhaitait rétablir. Et que l'Église a posé. Mais en même temps...
Mais est-ce qu'il a fait marche arrière sous la pression de l'Église ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons? Parce qu'on sait que l'Église avait mené plusieurs campagnes, parce que depuis la fin de la dictature, on a remis la peine de mort, on l'a supprimée, on l'a remis, on l'a resupprimée, et l'Église à chaque fois a joué un rôle de lobbying très fort. Est-ce que c'est sous la pression qu'il a décidé de ne pas la remettre en place?
C'est en partie sous la pression de l'Église et aussi des députés du Congrès qui quand même jouent aussi, ils sont pas... Tout le monde n'est pas à sa botte. Hein. Et donc, il y a une opposition dans le Sénat, des prétendants, parce que Duterte est un homme, ça explique un peu aussi cet aspect de réconciliation. Il est ce qu'on appelle un lame duck, en fait. C'est un canard boiteux. C'est-à-dire qu'il est dans la deuxième partie de son mandat. Aux Philippines, le mandat se limite à un seul mandat de 6 ans. Donc, c'est un homme qui va vers la fin. En plus, il est très malade. Il l'a admis. Je crois qu'il a...
Mais il a remporté l'élection de mi-mandat, justement. Il a été renforcé.
C'est supportant. Oui, mais c'est un soutien. En fait, c'est une victoire à demi-teint. Parce qu'il a effectivement, il contrôle le Sénat. Et il essaie de préparer sa fille pour le remplacer dans 3 ans. Mais il y a d'autres appétits et d'autres sénateurs que surtout pas, ils sont pas le soutien inconditionnable de Duterte. C'est plutôt transactionnel, comme on dit Trump.
Alors revenons, David Camerou, à la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le cœur du différent aujourd'hui entre Duterte et l'Église, c'est-à-dire cette campagne contre la drogue.
Je pense que la guerre contre la drogue est une vitrine. La vitrine d'un projet à long terme de restauration de la dictature. Il y a aux Philippines un problème de drogue, c'est évident. Mais pas dans les proportions qu'il décrit. Je suis un ancien toxicomane et je serai toujours en colère contre les effets de la drogue. Mais ce n'est pas une raison pour autoriser des massacres. En plus, je ne me lasserai pas de le répéter. La plupart des gens qui sont tués ne sont pas des toxicos. Il y a un énorme pourcentage de victimes collatérales qui n'ont aucun lien avec la drogue et quand même se retrouvent assassinés en pleine rue.
Voilà, on entendait à l'instant le père Villanueva dans un reportage qui avait été diffusé sur Arte Philippines, l'Église entre en résistance. En quoi les méthodes du régime pour combattre le fléau de la drogue posent problème à l'Église, David Camerou?
Parce que c'est les assassinats extrajudiciaires. Hein. Le police même a admis à 5 000 morts. Amnesty International, Human Rights Watch, c'est plutôt dans les 20 000. Effectivement, sont soit les gens innocents, soit les petits utilisateurs des méthamphétamines, le yaba, qui sont tués. C'est le drogue des pauvres. Il y a très peu de gens. On n'a jamais arrêté les trafiquants, les vrais trafiquants.
Oui, la stratégie, c'est de s'en prendre aux petits, aux consommateurs et aux petits trafiquants.
Oui. Bien sûr. Donc ça dérange l'Église qui joue un rôle. Certaines églises justement cachent les jeunes ou les fait sauter des manies ou des grandes villes pour les mettre à l'abri à la campagne parce qu'ils sont potentiellement victimes des policiers qui ont des objectifs chiffrés atteintes et qui ont les primes pour chaque soi-disant toxicomane tué. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse et en plus il y a une attitude selon les sondages très ambiguë des Philippins envers la guerre contre la drogue. On sait qu'il y a ces meurtres extrajudiciaires, mais on ne fait pas confiance à la justice. Le pays manque 50 000 magistrats. Les prisons sont pleines à 300-600% de leur capacité. Donc on sait que si quelqu'un est arrêté, il sera jamais condamné. Donc effectivement, comme en Amérique latine, on préfère la justice expéditive des vigilantes, des paramilitaires ou des policiers en civil et ou des policiers même que ce fléau continue. Et c'est vrai que le problème de drogue, il y a une perception qui est phénoménale, on a la perception qu'il y a 5% de la population. En fait, les chiffres officiels, c'est de l'État, sont de 1 ou 2%. C'est un des taux le plus faible, en fait, dans nos régions. Mais la perception, et quand on parle avec les gens, ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, en fait, dans la famille, qui est touché par ce problème.
Ce que vous nous expliquiez, David Camereau, à propos, justement, de ces prêtres de cette église qui protège, qui cache même un certain nombre de trafiquants ou de petits consommateurs pour éviter qu'ils ne soient tués dans des expéditions extrajudiciaires. Est-ce que c'est cela qui vaut l'attaque de Duterte à l'endroit du Conseil national des Églises philippines qui a été placé sur la liste rouge des organisations terroristes?
Oui, mais ça en fait, il a mis beaucoup de gens sur cette liste rouge.
Dont l'Église.
Dans l'Église. Dans un premier temps, dans la liste, il n'y avait que les mouvements musulmans. Ensuite, il a remis les anciens communistes sur la liste. Les anciens communistes qui étaient ses alliés, dans certains cas. Et maintenant, tout opposant, ce qu'on appelle les yellow tard, le jaune, c'est la couleur de l'opposition libérale, est considéré comme, c'est un peu comme l'esprit de Trump. Si vous n'êtes pas avec Duterte, si vous n'êtes pas... Vous êtes contre moi, bien sûr.
Et est-ce que les membres du clergé sont directement ciblés physiquement, eux aussi?
Il y a des meutes et des prêtres, oui. Il y a des menaces. Ils sont quand même plus protégés que les pauvres des bidonvilles. Mais effectivement, il y a eu des morts des prêtres. Et il y a des morts également des activistes sur les questions d'environnement qui sont soutenus par l'Église, dans certains cas. Il y a des mécanismes répressifs assez durs.
You know, the question of youth is something that is very close.
La question de la jeunesse est une question qui touche non seulement mon cœur, mais notre cœur à tous. Tout d'abord, nous avons aussi été jeunes. Quand je regarde les jeunes, en particulier ceux qui souffrent de maux que je n'ai pas connus, je veux rendre grâce pour les nombreux jeunes qui ont une vie heureuse, mais je ressens surtout une empathie et une union toute spéciale avec ceux qui souffrent. C'est pour cela que j'ai été très ému. Mon intervention portait sur l'appel pour nous tous à écouter les jeunes, en particulier quand ils nous montrent leurs blessures.
Especially when they are showing to us their wounds.
Cette figure centrale, David Camereau, de l'Église catholique philippine, le cardinal Tagle, son surnom, c'est le cardinal muet. Oui. Pour son manque d'engagement contre Duterte?
Oui, parce qu'on le compare par rapport à son prédécesseur, le cardinal Sin, en 86, qui était à la tête du mouvement qui a fait renverser la dictature du Ferdinand Marcos. Et lui, au contraire, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots.
Mais il est seul ou est-ce qu'il y a une partie de l'Église philippine, l'Église catholique philippine, qui effectivement soutient Duterte?
Une partie, en fait, il y a différents ordres religieux qui prennent plus ou moins position. Vous avez les ordres qui sont peut-être plus, disons, à gauche, comme les franciscains qui sont plus contre Duterte, mais effectivement, il y a une partie de l'Église qui est très conservatrice.
Et, donc on a une Église divisée.
On a une Église divisée. On a une Église aussi, peut-être on va en revenir, qui est menacée parce que on est peut-être 81% de catholiques actuellement, mais il y a une vingtaine d'années, on était plutôt 90. Donc, on a le montée de ces églises évangéliques, charismatiques, protestants, qui sont en train de diminuer, en fait, l'importance de l'Église catholique.
Alors, on va revenir, évidemment, dans quelques instants sur ce recul de l'Église catholique, du recul de son influence. Mais d'abord, un peu d'histoire. David Camerou, Ferdinand Marcos, né en 1917, qui commence sa carrière comme militaire avant de devenir député. Et puis après la Seconde Guerre mondiale et la pleine souveraineté acquise en 1946, Marcos s'engage d'abord dans le Parti libéral, puis ensuite il s'engage dans le Parti national dont il va devenir le chef de file. Il gagne les élections en 1965. Il engage un certain nombre de réformes, notamment dans le secteur agricole, qui vont d'ailleurs plutôt, en tout cas dans un premier temps, permettre un décollage économique assez important. Et puis il est réélu en 1969 et après plusieurs menace, il met finalement à exécution sa menace et met en place cette loi martiale, on est en 1972, et qui instaure donc de facto cette dictature militaire. Écoutez le souvenir qu'en a justement un père.
Pendant la loi martiale, l'Église a toujours été le porte-parole des personnes arrêtées, torturées, qui souffraient. Et c'était vraiment la seule voie que le gouvernement ne pouvait pas arrêter. Il y avait des messes, il y avait des processions, et la foi et le courage des gens leur ont permis d'aller jusqu'au bout. C'était vraiment un miracle de solidarité, ces gens ensemble. Au bout de quelques jours, les tanks ont commencé à bouger. J'avais vraiment peur qu'ils se retournent contre les manifestants, mais ils sont rentrés dans leur camp. Et je me souviendrai toujours de ce soldat qui a ouvert la porte du tank et a fait un signe de paix.
Voilà, le père Nebrez qui faisait partie justement de l'équipe du cardinal Sin dont vous parliez à l'instant. Quel a été le poids de l'Église catholique durant la présidence de Marcos, et quel a été son rôle dans la chute de la dictature?
Ben, c'était presque comme en Pologne, c'était la seule force de l'opposition. C'était effectivement, comme ceux qui étaient emprisonnés, c'était plutôt les catholiques des classes moyennes, il y avait un aspect, disons, de protection des droits de l'homme dans l'action de l'Église de l'époque. En plus, il y avait le cardinal Sin, qui était un cardinal charismatique. Donc, c'était... Et Marcos a fait exiler son principal opposant, donc Beni Aquino, qui, une fois qu'il est rentré aux Philippines, a été tué à l'aéroport de Manille par les hommes proches de Marcos. Et c'est ça qui a fait le déclic pour le mouvement qu'on appelle People's Power One, la puissance du peuple, qui a vu ensemble, en fait, trois parties, en fait, de la population. L'Église était certes très important. Je me souviens des images avec les religieuses devant les chars, avec les fleurs, en priant pour que les soldats fidèles à Marcos ne tirent pas.
Vous y étiez?
Non, mais je me souviens des images de l'époque. Et également, en fait, une partie de l'armée et une partie du milieu des affaires de McCarthy, qui n'est pas bénéficié par le système de corruption et des cronéismes de Marcos. Donc, en effet, cette alliance, les troupes étaient les gens extrêmement modestes, mais derrière, c'était quand même l'Église, et le rôle de la radio catholique était très important pour mobiliser à l'époque ces milliers et des milliers de manifestants.
Ils ont été importants pour la chute de Marcos, mais ils sont aussi importants quand en 2001 va tomber Joseph Estrada, qui est le président. Là aussi, on va avoir un autre mouvement où l'Église va vraiment être physiquement, d'ailleurs, l'épicentre de la contestation.
Oui, et au même temps, c'est là qu'il commence le désenchantement avec le peuple. Parce que Estrada était cet crampu, il a sept maîtresses, en fait, il a sept maisons, une maison pour chacun de ses maîtresses. Mais c'était, son nom, c'est Erap, en fait, c'est pareil, c'est le copain, hein. Son nom utilisé par le peuple. Et c'était un homme, le premier président, soutenu vraiment par les classes les plus pauvres. Et on voit là, notre président à nous a été, en fait, renversé par l'Église. Parce qu'après, il y a un troisième mouvement, donc on parle très peu, People's Power 3, qui était un mouvement vraiment du peuple pour que Estrada soit remis dans ses fonctions. Et c'est le seul des trois...
Auquel a participé l'Église?
Non. Non, au contraire. Au contraire. Et c'est le seul des trois mouvements dans lesquels, qui étaient réprimés dans le sang. Les deux autres étaient pacifiques. Donc, là qui commence, cette espèce de, l'Église est contre, en fait, ce que, qui nous représente, en fait, que ceux qui sont comme nous, hein. Et c'est ça, on le trouve aussi avec Duterte. Duterte, il y a un lien, c'est la force des populistes. Il y a un lien presque, disons, mystique. Peut-être, j'exagère un peu, mais avec le peuple. Parce qu'il parle comme eux, crûment, hein. Et, il se sent, il donne l'impression qu'il se soucie de leur préoccupation. Tandis que l'Église, on a l'impression que c'est l'Église qui a, disons, trahi, peut-être je pèse mes mots, peut-être c'est une exagération, mais oui, que l'Église qui a un peu trahi le peuple parce que ces deux révolutions, People's Power 1, People's Power 2, n'ont pas apporté ce qui souhaitait le peuple.
Ça et peut-être... pourtant l'Église est extrêmement présente, vous le disiez tout à l'heure, pour défendre les plus défavorisés.
Ça a amené le démocratie. Certes, mais ça n'a pas diminué la pauvreté, ça n'a pas diminué les inégalités, c'est les Philippines des pays les plus inégalitaires en Asie, le petit peuple ne voit pas le résultat de ces soi-disant révolutions soutenues par l'Église. Donc il y a là une espèce de sentiment que l'Église... a fait ça simplement qu'il y a un changement au sein de l'élite, mais que fondamentalement la structure de la société n'a pas changé.
Hein. Et est-ce que l'Église a conscience aujourd'hui de cette crise? Est-ce qu'elle a pris conscience de ça et est-ce qu'elle essaye de se réformer pour répondre justement à ce défi?
Il y a deux autres aspects qu'il faut insister sur. Après 72, Marcos a encouragé les Philippins de partir travailler à l'étranger. Les Philippins à l'étranger, c'est important, représentent 10% de la population. C'est une des 10%, ils apportent à peu près entre 10 et 15% du PIB. C'est-à-dire, sans les Philippins à l'étranger, l'Église, en fait, l'Église, le pays sera encore plus pauvre. Donc, l'Église a un peu perdu une partie de ses fidèles, disons, le plus entrepreneurial, ceux qui sont partis à l'étranger. Et deuxièmement, on assiste à un phénomène important qui est les classes, disons, des classes moyennes aspirantes, hein, en fait, qui voient ce espèce de plafond vert, hein, très bas, se tournent pas vers l'Église et ils se reconvertissent ou se retrouvent plus dans les églises évangéliques. L'évangile de la prospérité qui vient des États-Unis est très important dans ces églises, le secte Iglesia Uni Christo, et donc ces gens-là se sont en fait quittés l'église, ou les enfants ont quitté l'église, et se sont retrouvés maintenant dans les églises évangéliques. Donc ces deux forces, donc le parti qui est parti à l'étranger et la partie de la population qui sont reconvertis au protestantisme, aux églises évangéliques, fait en sorte
ça se passe au même moment, ça c'est, ce développement de l'Église évangélique de la prospérité. Vous disiez cette grande migration, c'est le début des années 70. Pour ce qui est des évangéliques, quand est-ce que ça part? Parce que la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que le déclin de l'Église catholique, elle est la conséquence précisément de l'émergence de l'Église évangélique de la prospérité, notamment, et tous les mouvements évangélistes? Ou est-ce que c'est au contraire, parce qu'il y a eu ce déclin de l'Église catholique, que ces mouvements ont pu émerger?
Je crois que les deux sont liés, en fait. Ces Philippins, par exemple, qui sont partis aux États-Unis, se sont retrouvés, justement, dans ces églises, l'évangile de la prospérité. Donc, une espèce d'aller-retour, en fait, entre l'influence des églises, disons, évangéliques aux États-Unis, où habitent la plupart des Philippins à l'étranger, par exemple, en France, les Philippins en France se trouvent à la fois à l'église américaine, hein, et à la fois à l'église Saint-Joseph, qui est l'église catholique. Mais aussi, on a ce même phénomène où le fait d'être à l'étranger, en fait, fait éloigner ces gens de l'église philippine.
David Camerou, il y a évidemment les mouvements évangéliques, mais il y a aussi la montée en puissance de l'islam, et aussi, disons-le, de l'islam radical. On a vu ces dernières années des groupes radicaux se revendiquer de l'État islamique. On a même vu des groupes en capacité de prendre des villes comme Marawi, qui est quand même une ville très importante, alors qui depuis a certes été reprise par l'armée. Mais quand même, est-ce que on peut établir aussi un lien? Est-ce que finalement la montée en puissance de l'islam, et en particulier de l'islam radical, c'est aussi lié, on peut le corréler à la perte d'influence de l'Église catholique?
Non, je ne le pense pas. En fait, il n'y a pas eu de conversion de la population à l'islam. C'est une radicalisation des musulmans du Mindanao qui se trouvent minorité chez eux, ce qui n'est pas le cas il y a une cinquantaine d'années, à cause de l'immigration interne aux Philippines. La Banque mondiale, dans les années 60, à partir des années 50-60, a promu l'immigration des îles surpeuplées du nord vers l'île de Mindanao. Donc, ces gens-là se trouvent déshérités, en fait, de leur terre. Et donc, il y a plusieurs mouvements, mais on est arrivé avec, progressivement, un accord de paix avec le mouvement principal, qui est le Front de libération islamique des Moros, qui ont aidé l'armée pour recapturer la ville de Marawi, qui était occupée par deux autres groupuscules, le groupe Abu Saïf et un autre groupuscule, qui se donnaient fidélité à l'État islamique. Mais maintenant, l'État islamique, il faut le voir comme une franchise. C'est-à-dire que c'est comme McDonald's, hein, on prend le label État islamique, mais c'était un mouvement purement local. Et la radicalisation ou l'influence de l'étranger vient plutôt de l'Indonésie, avec les musulmans de l'Indonésie qui vont porter main forte à leurs frères de la foi en Mindanao. Mais l'Église plutôt dans les négociations a joué plutôt un rôle de médiateur. Hein.
Oui, mais justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que certes, effectivement, c'est un label, il n'empêche que ce sont des groupes qui s'en sont pris directement aux catholiques. Janvier dernier, il y a un double attentat absolument terrible qui touche la cathédrale de Jolo, qui est une île du sud de l'archipel, qui fait 20 morts, et là, c'est bel et bien des catholiques qu'on vise. Alors, comment est-ce que, justement, l'Église a réagi et où en est-on de ce dialogue intercommunautaire, s'il existe d'ailleurs?
Oui. Ça a mis l'Église dans une situation difficile, parce que c'est exprès qu'on a choisi comme cible la cathédrale. C'était fait par un des groupes, vraiment le groupuscule des jusqu'au boutistes. Contre l'avis, en fait, contre le souhait de la majorité des musulmans de Mindanao et les autres mouvements qui souhaitent surtout pas faire une guerre de religion. La plupart des musulmans de Mindanao souhaitent maintenant jouer le rôle, en fait, le jeu de l'autonomie. C'est beaucoup plus confortable d'être un homme politique dans une région autonome, d'être un guérilla dans la jungle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que ça a un impact sur l'Église, mais au contraire, L'Église ne souhaite pas aussi rentrer dans le discours de Duterte, qui sera une espèce de guerre contre le terrorisme sur la base d'une guerre religieuse.
Mais comment on évite ça, justement, en mettant en place un dialogue sur les terrains avec des imams? Les curés et les imams se parlent sur le terrain?
Sur le terrain, mais surtout à Mindanao, à Mani, en fait, d'essayer de jouer un rôle un peu plus écuménique et d'essayer de prêcher la paix plutôt que la violence.
Ça marche.
Écoutez, le code de Banks Mora, c'était plutôt, dans le monde que nous vivons, plutôt une réussite.
Hein. C'est quoi cet accord?
Cet accord de la région autonome de Banks Mora, c'est un accord qui donne une plus grande autonomie à cette région, y compris les droits de lever des impôts sur la liberté de religion et d'autres sujets. Donc, c'est un compromis, mais c'est un compromis qui apporte plus la paix que la poursuite de la violence pendant encore des dizaines d'années.
Que reste-t-il aujourd'hui du pouvoir de nuisance de Daesh? Enfin, des groupes labellisé Daesh.
Les groupes, il y a ce qui reste, c'est les violences entre les groupuscules et entre les clans de famille. C'est un aspect clonique. C'est pas la question religieuse est très peu présent. Donc il y a une espèce de revanche dans le cas de Marawi, par exemple.
On est avec vous, David Cameroun, dans cette série consacrée à l'Asie, les autres mondes chrétiens, Philippines, un bastion chrétien en perte de vitesse.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et pour comprendre pourquoi les Philippines abritent autant de catholiques, faut remonter 5 siècles en arrière, au moment de la colonisation du territoire par l'Espagne. En effet, mars 1521, l'explorateur portugais Magellan débarque sur l'archipel pour le compte de l'Espagne. Il y trouve des paysages paradisiaques, des oiseaux de toutes les couleurs, des épices en tout genre et des indigènes aux apparences pacifiques. Un lieu parfait pour prononcer une première messe.
Durant les 3 mois et les 20 jours que nous sommes restés dans le Pacifique, nous n'avions même plus de pain. Pour ne pas mourir de faim, nous mangions du cuir et de la sueur de bois. Nous avons continué notre voyage et nous sommes allés sur l'île de Cebu, où nous avions baptisé les natifs et les habitants des îles proches. Pourtant, le 22 avril 1521, les habitants d'un village d'une de ces îles désobéirent. Alors, nous avons brûlé le village et nous avons planté une croix au centre de celui-ci.
Voilà, extrait du journal de bord d'Antonio Pigafetta, marin italien et compagnon de voyage de Magellan. Et 5 jours plus tard, l'explorateur Magellan va être tué lors d'une attaque de guerriers locaux. Oui. On va retrouver tout de suite par téléphone Xavier Huetz de Lemes, qui est historien, professeur à l'université Côte d'Azur. Les premiers temps de la christianisation n'ont pas été simples, Xavier Huetz de Lemes.
Évidemment, ils ont été même très complexes pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que Magellan était parvenu aux Philippines, mais le problème a été d'envoyer régulièrement des missionnaires. Et de fait, le véritable début de l'évangélisation est beaucoup plus tardif que la mort de Magellan, puisque c'est seulement à partir de 1565 qu'il y a vraiment une implantation pérenne des Espagnols et des missionnaires aux Philippines.
Notamment avec Miguel López de Legazpi, qui est le conquistador qui va prendre Manille. On va y revenir. Mais d'abord, il faut peut-être redire l'importance de ce lieu, parce que les Espagnols auraient pu finalement laisser tomber cette terre, abandonner cet objectif de christianisation. Mais il faut bien comprendre la situation géographique des Philippines, qui la rend absolument décisive pour la circulation, pour le commerce. C'est une périphérie asiatique qui est incontournable.
Oui, de fait, si vous voulez, l'expédition de circumnavigation de Magellan avait quand même pour objectif prioritaire d'avoir accès aux épices, et en particulier à l'actuelle Indonésie, aux Moluques, qui étaient les grands producteurs d'épices. Et donc les Philippines, effectivement, dans ce combat entre Portugais et Espagnols pour mettre la main sur le commerce des épices, était idéalement placé. Et puis il y a aussi la proximité de la Chine, bien sûr, qui joue un rôle très important dans les projections géostratégiques de l'Empire espagnol.
Alors vous nous dites que ça commence vraiment en 1565.
Oui.
Qu'est-ce qui commence et comment ça commence? Est-ce que le processus d'évangélisation, il est à peu près le même que celui qu'on utilise du côté de l'Amérique latine ou c'est un peu différent?
Non, il est totalement similaire. En fait, si vous voulez, les missionnaires espagnols ont utilisé des méthodes qui avaient été rodées et qui avaient relativement bien fonctionné de l'autre côté du Pacifique, en Amérique espagnole. Et c'est exactement le même modèle qui est employé par des missionnaires qui, entre parenthèses, lorsqu'ils arrivent aux Philippines, ont souvent déjà évangélisé en Amérique espagnole. Donc c'est une transposition presque à l'identique, en fait, des modèles. Alors, presque à l'identique, sauf que, évidemment, les langues ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes. Donc, il a fallu, évidemment, adapter le message évangélique et les méthodes de mission aux populations locales. Donc, c'est pas une transposition à l'identique, mais c'est tout de même un modèle extrêmement proche du modèle américain.
D'autant que l'environnement n'est pas exactement le même. J'entends bien exactement, la culture, bien le langage, mais on est quand même dans un moment où, évidemment, cette conquête espagnole, elle s'inscrit aussi dans un contexte de guerre des religions. L'islam est aussi en plein processus d'expansion et il est déjà présent en Asie. Quelle exactement. Place il a à ce moment-là, justement?
Et aux Philippines.
Et aux Philippines. Alors, quelle place il a, justement, cet islam aux Philippines à ce moment-là?
Alors, cet islam aux Philippines, en fait, il est assez récent, c'est-à-dire que les premiers sultanats ont été fondés au 14e, 15e, Mindanao, Sulu. Et en fait, on est dans un processus extrêmement lent d'expansion de l'islam par le sud de l'archipel, en remontant vers le nord. Et au moment où les Espagnols arrivent, au moment où les Gaspilles arrivent, et même à l'époque de Magellan, il y a déjà des noyaux musulmans au centre de l'île, à Cebu, et à Manille. Et Manille a déjà une implantation musulmane. Mais c'est un processus très lent qui n'a rien à voir avec la conversion assez brutale de l'Espagne. Donc c'est un mouvement, si vous voulez, de diffusion lent de l'islam, qui justement est une des motivations aussi pour les Espagnols dans la conversion des Philippines. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire barrage à l'ennemi musulman. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque, en Méditerranée, le grand ennemi des Espagnols, ce sont les musulmans. La monarchie hispanique, ce sont les musulmans. Donc il y a une sorte de nouveau front, entre guillemets, qui s'ouvre alors très très loin, évidemment, de la Méditerranée, contre l'ennemi musulman.
Alors, il y a cette dynamique qui est en marche du côté de l'islam et qui, évidemment, s'oppose à celle que veut enclencher l'Espagne avec le christianisme. Mais il y a aussi d'autres puissances dans la région et des puissances qui sont aussi dans des logiques d'expansion. La Chine, le Japon, comment est-ce qu'elles réagissent à cette évangélisation des Philippines?
Alors, c'est un peu compliqué parce que les Philippines sont une base, ou doivent devenir une base, de la conquête spirituelle du Japon et de la Chine. Donc la menace, entre guillemets, missionnaire peut venir des Philippines. Mais les choses sont assez complexes, en fait, parce qu'il y a aussi des relations commerciales très actives et pratiquement dès le départ, hein, dès que les Espagnols s'installent à Manille, en 1571, il y a des relations commerciales très actives avec la Chine. Donc c'est une relation, disons, assez complexe, hein, dans lesquelles se mêlent des projections impériales, des échanges économiques qui sont très actifs, et cette composante missionnaire qui, en fait, inquiète assez vite et les autorités impériales chinoises et les autorités impériales japonaises.
Alors, il y a une chose qui va complexifier encore la situation, Xavier Huetz de Lemps, c'est que pendant longtemps, visiblement, cette autorité sur l'archipel, elle est exercée depuis le Mexique, où vivait le vice-roi chargé des Philippines. Comment comprendre cette situation? Pourquoi l'autorité n'est pas sur place? Ou même alors, à la limite, pourquoi pas exercer depuis Madrid? Et quelles conséquences dans le développement et peut-être une forme d'autonomisation de ce christianisme philippin?
Alors effectivement, le grand problème des Philippines pour la monarchie hispanique, c'est la distance. C'est de vaincre la distance. Ce sont des distances énormes, puisqu'il faut traverser l'Atlantique puis le Pacifique pour à la fois transmettre les ordres de la métropole, mais aussi pour transporter les personnels, les personnels administratifs comme les missionnaires. Donc cette distance considérable, évidemment, permet aux autorités locales, qu'elles soient d'ailleurs séculières ou religieuses, leur confère une très grande autonomie. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance, si vous voulez, théorique à l'égard de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, mais dans les faits, le clergé missionnaire espagnol aux Philippines, comme d'ailleurs les autorités coloniales aux Philippines, ont une très large marge d'autonomie.
Vous avez notamment écrit un article, Xavier Huetz de Lemps, qui est intitulé « Le sabre, le goupillon et la révolution ». Et vous expliquez que depuis 1622, Rome préconisait le remplacement progressif des missionnaires par des curés autochtones. Sauf que visiblement, ces missionnaires vont un peu résister à cette injonction. Pour quelles raisons et qu'est-ce que ça va produire là aussi? Quelles conséquences?
Alors, les missionnaires espagnols ont résisté à cette sécularisation qui était prévue et qui était voulue, hein, vous l'avez dit, tout à fait par Rome, par le Saint-Siège, pour des raisons qui sont des raisons qu'on pourrait dire de pouvoir. Pour résumer, à la fois pour conserver le considérable pouvoir spirituel qu'ils avaient sur les populations locales, aussi un pouvoir économique, parce qu'assez vite apparaissent des grands domaines ecclésiastiques que possèdent ces ordres missionnaires, en particulier dans le centre de Luçon. Et puis enfin, pour maintenir leur pouvoir politique, parce que ils étaient les seuls intermédiaires, finalement, entre les populations locales et les autorités coloniales. Donc, voir arriver des prêtres philippins, des prêtres séculiers philippins, signifiait pour eux que tout ce pouvoir, en fait, risquait à terme de disparaître. Donc, ils ont résisté jusqu'à la fin de la domination espagnole, jusqu'en 1898, à cette sécularisation des paroisses, qui aurait été la logique. La mission, ça n'a qu'un temps, et lorsque les populations sont converties, ils auraient dû passer la main, en fait, à un clergé séculier.
Alors, justement, on arrive au moment très important, c'est-à-dire cette fin du 19e siècle. On a un mouvement nationaliste philippin qui va commencer à prendre de l'ampleur. On a une insurrection qui va s'opposer de plus en plus à la domination coloniale espagnole. Or, ce que vous dites, c'est que c'est peut-être aussi le résultat d'une forme, je vous cite, d'illisibilité de la politique coloniale espagnole aux Philippines. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les missionnaires, les militaires, les hommes d'affaires défendent des objectifs trop différents. Le sabre, c'est-à-dire le pouvoir militaire, et le goupillon, c'est-à-dire le pouvoir religieux, qui sont les expressions que vous utilisez dans votre article, ne sont plus en symbiose?
Alors, le dilemme, en fait, dans lequel est placé le pouvoir colonial, c'est qu'il est persuadé, en partie à raison, en partie à tort, que sa meilleure défense, que la meilleure défense de la domination espagnole dans l'archipel, ce sont justement les missionnaires. Donc, il craint que par la moindre réforme, en fait, il affaiblisse la domination espagnole en sapant le pouvoir des missionnaires. Le grand problème, c'est que au XIXe siècle, les Philippines se sont ouvertes économiquement, intellectuellement. Il y a une élite philippine extrêmement brillante, hispanisée, des intellectuels philippins qui vont en métropole. Et donc, si vous voulez, là, ces intellectuels philippins introduisent aux Philippines des idées nouvelles, qui sont les idées libérales de l'Europe du XIXe siècle. Et ces idées, évidemment, rentrent immédiatement en conflit avec le modèle traditionnel des ordres missionnaires. Donc là, il y a un conflit qu'aurait dû théoriquement arbitrer justement le sabre en clarifiant en fait sa position, mais il y a eu des atermoiements et finalement cette absence de réponse a directement été la cause de la grande insurrection philippine de 1896 contre à la fois le pouvoir religieux et le pouvoir colonial espagnol.
Et va aboutir en 1902 à cette église schismatique qui émerge, l'Iglesia Filipina Independiente, fondée par cet intellectuel nationaliste Isabelo de los Reyes. Et dès lors, la rupture avec Rome est actée et la capacité de pénétration du Vatican et de Madrid dans la société philippine, elle devient très limitée, pour le moins.
Oui, oui et non. Enfin, je vous suis à moitié sur ce point parce qu'effectivement, la fondation de cette église schismatique qui est l'église aguipayenne, en 1902. Elle montre, si vous voulez, la volonté ferme du clergé philippin d'avoir la main, de posséder le pouvoir aux Philippines et aussi d'adapter de manière beaucoup plus claire le message évangélique aux traditions culturelles philippines, à la religion populaire, à la religiosité populaire philippine. Mais, si vous voulez, le Saint-Siège a assez habilement négocié avec les autorités américaines pour finalement conserver un pouvoir important dans l'organisation de l'Église. Et de fait, l'Église schismatique aglipayenne, elle a assez vite décliné. Elle existe encore, mais elle est très très résiduelle, parce que la force, je dirais, d'organisation de l'Église romaine a été un atout pour la conservation du pouvoir de l'Église catholique aux Philippines.
Ouais, il faut dire qu'évidemment, le Vatican a un tout petit peu d'expérience en la matière. Hein.
Exactement. Ils sont très très bien pris et ils sont parvenus à conserver en fait un pouvoir assez considérable. Mais avec beaucoup plus de prudence, et surtout, il faut souligner que les missionnaires espagnols ont été totalement évincés. Là, de ce point de vue-là, la présence missionnaire espagnole disparaît et en fait, ils sont remplacés dans la hiérarchie ecclésiastique. Ce sont en fait des catholiques américains qui sont nommés à la tête des évêchés, archevêchés philippins.
Merci infiniment à vous, Xavier Huetz-Delhems, d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'Université Côte d'Azur. Et un grand merci à vous, David Camerou.
C'est un grand plaisir.
De nous avoir éclairé. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes chercheur honoraire au CERI, le Centre d'études internationales de Sciences Po, mais également professeur invité à l'Université nationale du Vietnam de Hanoï. Vous avez participé à un ouvrage collectif récent qui est paru aux presses de Sciences Po, L'enjeu mondial, populisme au pouvoir. C'est vous qui avez fait le portrait de Duterte. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors pourquoi faut-il relire La Peste de Camus, Brice ?
On a eu tort, écrit Robert Zaretsky, de réduire le roman de Camus à une parabole littéraire de l'occupation subie par la France à la suite de sa défaite militaire de juin 40. D'abord parce que les métaphores en disent toujours plus que les sens immédiats auxquels on tend à les rapporter. Elles peuvent conduire à des massacres de masse, à des génocides. En 1994, au Rwanda, de puissantes radios Hutus, on dit des Tutsis que ce n'étaient pas des êtres humains, mais des serpents. Or, que fait-on aux serpents ? On leur coupe la tête. Des centaines de milliers de Tutsis ont été massacrés par des Hutus qui avaient pris la métaphore au sens le plus féroce. Ils leur ont tranché la tête à coups de machette. Hitler a comparé les Juifs à de la vermine. Et dans ces camps d'extermination, ces sbires ont utilisé un pesticide pour assassiner énormément d'êtres humains, le zyklon B. Oui, il faut se méfier des métaphores. Elles ne sont pas toujours innocentes et peuvent entraîner des effets de réel diaboliques. La Peste fut publiée en 1947, juste entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la Guerre froide. Dans l'esprit de Camus, son roman ouvrait une nouvelle étape de son œuvre. Après le cycle de l'absurde auquel appartenait en particulier le mythe de Sisyphe et Caligula, s'ouvrait le cycle de la révolte. On ne peut réduire la peste à une métaphore de l'occupation et au nazisme. Pas plus, selon Zaretsky, qu'on ne saurait réduire, disons, la ferme des animaux de George Orwell à une dénonciation du communisme. Les grandes œuvres débordent toujours les circonstances particulières qu'avait en tête leur auteur au moment de leur écriture. Elles conservent leur pouvoir d'élucidation et la leçon morale qu'elles comportaient dans tout autre contexte. Et Zaretsky rappelle l'échange qui eut lieu entre Camus et Roland Barthes. Ce dernier avait qualifié la référence généralement faite à l'occupation et au nazisme de « malentendu ». Camus lui répondit dans une lettre ouverte qu'il avait en effet voulu que son livre se lût sur plusieurs portées, même s'il maintenait qu'en effet l'occupation et la résistance en constituaient le contenu évident. Eh bien, c'est sur cette notion de plusieurs portées que s'appuie Zaretsky, qui est un professeur américain d'histoire de la France moderne, pour écrire que la peste mérite une nouvelle lecture face à la multiplication, je cite, sur les deux rives de l'Atlantique, de nouveaux leaders impulsifs et irrationnels qui inspirent des indignations et des colères qui ne sont nullement spécifiques aux sociétés totalitaires.
Parce que le roman de Camus, Brice, proposerait des réponses, en tout cas à qui c'est les liens.
La première leçon à en retenir, accepter les faits. Voir ce que l'on voit et savoir le nommer. Bernard Rieu, le héros et narrateur du roman, est un médecin. Devant l'accumulation des symptômes, il n'hésite pas à incriminer la nature du fléau qui s'est abattu sur la ville. Oui, c'est bien la peste. D'autres autorités préféreraient qu'on cache la vérité aux habitants. De la même façon, la leçon qui figure dans le roman est qu'il faut prendre un soin vigilant du langage. On pense en particulier au passage où Jean Tarrou, voisin et ami du narrateur, raconte un procès au cours duquel son procureur de pair a réclamé la peine de mort contre un accusé. Le procureur s'est réfugié dans une abstraction pour ne pas voir la personne qu'il avait en face de lui. « Tous nos problèmes, dit-il, viennent de notre échec à utiliser un langage simple et direct. » Il faut savoir appeler les choses par leur nom. Parler clairement est une exigence morale. Claudio Magris a écrit à ce propos dans un livre intitulé « Utopie et désenchantement » « Beaucoup de malhonnêteté naissent quand on massacre la langue, qu'on met le sujet à l'accusatif et le complément d'objet au nominatif, brouillant ainsi les cartes, intervertissant les rôles des victimes et des bourreaux, abolissant les distinctions et les hiérarchies en de crapuleuses orgies de concepts et de sentiments qui altèrent la vérité. » Lorsque les choses sont correctement nommées, poursuit Zaretsky, eh bien, les choix moraux décisifs sont déjà presque faits. Quand Camus travaillait à la rédaction de son roman, il vivait alors à Chambon-sur-Lignon, un village protestant, dont le pasteur André Trocmé avait organisé l'accueil de 3000 réfugiés juifs. Un officier allemand vint le questionner. « Où sont les juifs ?» Réponse du pasteur. « Nous ne savons pas ce qu'est un juif. Ici, nous ne connaissons que des êtres humains. » Lorsque Rieu parle de son rôle de médecin combattant la peste, il explique qu'il n'est mu par aucune forme d'héroïsme, mais par quelque chose de très banal, la décence ordinaire, celle qui pousse les gens à bien faire leur travail. La littérature, conclut Zaretsky, n'offre pas de leçons pratiques sur la manière dont on doit vivre sa vie. Elle n'offre pas véritablement de guide pour l'action, tout au plus des références utiles. La peste, concluait Rieu, ne disparaît jamais pour de bon. Face aux nouvelles pestes, celles de notre époque, l'espoir est peut-être vain, mais le désespoir l'est encore plus, écrit de son côté Zaretsky.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cette leçon sur la décence ordinaire. On peut retrouver évidemment cette chronique sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.